En fait, moi, je viens un petit peu à l'introduction de mon éminent collègue Erwan Kemere, qui va vous parler un petit peu de génétique et d'une façon un petit peu savante. Et pour introduire un petit peu ça, la génétique, en fait, l'étude porte sur des choses qui sont invisibles, les gènes. Mais ces gènes, ils sont contenus dans des cellules. Et ces cellules, en l'occurrence, sont des cellules de Bouquetin. Et ces Bouquetins, ils se déplacent. Et ces Bouquetins se déplaçant, il est aussi intéressant d'analyser les déplacements de ces Bouquetins qui permettent aux gènes de se déplacer. Donc c'est le but un petit peu de cette petite introduction. Alors d'abord, on dispose d'un certain nombre de données puisqu'il y a eu plusieurs lâchers qui ont été faits sur la chaîne. Ça a démarré en juillet 2014. Et évidemment, comme les lâchers se succèdent, les premiers Bouquetins qui ont été lâchés, ce sont ceux pour lesquels on dispose de plus de données. Et au fur et à mesure, donc, les derniers lâchés, on a arrêté un petit peu le bilan le 18 août, donc on n'a pas tout. Et donc en bas à droite, vous avez les derniers, ce sont pour la plupart des femelles, les derniers individus qui ont été lâchés. Et on a pratiquement que 9 jours de données. Enfin, au 18 août, on avait 9 jours de données, alors que pour les premiers, on a plus de 300 jours de données. Donc lorsqu'on démarre une étude pour une population qui vient de s'installer, et c'est le cas pour celle-ci, et pour nous d'ailleurs, au passage, c'est une grande chance, puisque je pense qu'à la carrière d'un chercheur, mais même d'un agent ou d'un technicien de terrain, travailler et pouvoir suivre l'arrivée d'une nouvelle espèce dans un nouveau milieu, c'est une occasion qui ne doit pas se produire plusieurs fois dans une carrière. Donc en fait, au début de l'installation d'une population, il faut faire attention, puisqu'on ne va pas comparer des individus qui déjà présentent, possèdent beaucoup de données avec d'autres qui ont peu de données. Et ce qui fait qu'on doit être vigilant et ne comparer que des choses qui sont comparables. Alors le principe, enfin vous le connaissez tous, je suppose, puisque ça a été assez vulgarisé, médiatisé. Donc un collier qui est posé, un collier GPS, avec une partie avec antenne récepteur GPS au-dessus. Évidemment, il faut une batterie pour alimenter le tout. Il y a également une antenne qui permet de faire circuler l'information. Et il y a également un petit dispositif, un drop-off, ce qu'on appelle un drop-off, qui en fait est un dispositif qui va, lorsqu'on peut le déclencher à distance, entraîner une détonation qui va détruire une partie du collier qui va s'ouvrir. Détruire une partie du collier, pas le cou de l'animal. Hein. Et donc en fait, le collier tombe et on peut récupérer le collier lorsqu'on le souhaite. Et en général, Jordi, qui ne se trouve pas là et que je solliciterai tout à l'heure, m'a dit que ça avait bien fonctionné pour les essais qu'ils ont faits. Le principe du GPS, il y a trois phases. La première phase, en haut à gauche, en fait, l'animal va être localisé et comme on se trouve dans une zone de montagne, il faut évidemment avoir une information sur l'altitude. Ce qui fait que lorsqu'on a deux satellites, l'information sur l'altitude n'existe pas ou elle est très imprécise. Donc en fait, on va retenir surtout les localisations où il y a trois satellites, un positionnement par trois satellites. La deuxième phase, donc lorsque l'information est captée au niveau du collier de l'animal, en fait, l'information des trois satellites doit être retransmise vers un satellite de télécommunication, un Iridium, qui va permettre donc justement de récupérer ces coordonnées et de les transmettre grâce à une antenne satellite terrestre. C'est la troisième phase, qui ensuite va passer ça sur le réseau Internet et évidemment distribuer ça aux différents utilisateurs en fonction de ce que l'on veut faire. Voilà le principe donc de ce dispositif GPS. Alors on peut se dire que comme on dit souvent que l'erreur est humaine et donc la machine ne peut pas se tromper, on pourrait penser que, en fait, si on a recours à la technologie, on a pu avoir de problèmes d'erreur et on va avoir une information de bonne qualité. Et en fait, ce n'est pas trop le cas. Hein. Les machines aussi peuvent, surtout en montagne où les dispositifs sont soumis à de grandes différences de température, d'humidité. Là, on a représenté donc l'information pour le Bouquetin 69. Je pense que c'est un mâle. Et si en fait on avait une bonne qualité d'information, la figure, en fait, ça serait uniquement un trait horizontal qui serait au niveau de l'ordonnée de 6 heures, puisqu'on a programmé pour avoir une localisation toutes les 6 heures, jour et nuit. Ce qui fait que sur une journée, on a 4 localisations. Et vous voyez que tous les points qui sortent de cette ligne horizontale de 6 heures, ce sont des erreurs, enfin des erreurs, en tout cas des problèmes de délai entre les différentes données. Puisqu'en fait, on a en dessous, ce sont des données qui arrivent un petit peu trop vite, 2 heures, 4 heures de temps, et au-dessus, ce sont des données qui arrivent un petit peu trop lentement, puisqu'on peut avoir aussi, on a eu deux localisations pour lesquelles la donnée suivante est arrivée 30 heures après. Ce qui est un petit peu gênant, suivant les études que l'on veut faire. À partir de toutes ces données, on en a beaucoup, effectivement, et si on les place, si on les positionne sur une carte, on est plus ou moins content puisqu'on a un amas de données. Bon, on se doute bien que le plus fort amas correspond au site de lâcher. Mais en fait, on a pas beaucoup d'informations. On ne sait pas quels sont les individus qui font le plus de mouvements. On ne connaît pas les déplacements. Donc en fait, ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire en me permettant de faire un petit peu d'animation. D'abord, vous avez la carte. Et puis, j'ai positionné sur la carte des points remarquables. CC en rouge en haut, c'est évidemment, vous en doutez, le cirque de Kagatei. À droite, vous avez PB, c'est le plateau de Bay. Et en dessous, vous avez PCDE, c'est le pic de la Coupe d'Enfer. Et donc voilà, on a positionné géographiquement l'ensemble. Et en fait, ce que j'ai fait là, c'est que on a établi une moyenne de localisation pour chaque animal par jour. Et en fait, chaque fois qu'il y a un petit mouvement d'un point, c'est une journée qui est passée. Et on a essayé de reconstituer donc, les déplacements de ces animaux depuis l'été 2014 jusqu'à l'été 2015. Alors le problème, c'est que ça va aller très vite, donc je vais essayer d'arrêter la vidéo pour vous donner un petit peu les informations remarquables. Au départ, à l'été 2014, les individus viennent d'être lâchés, ils n'ont pas parcouru beaucoup de distance, donc en fait ils sont concentrés, ce qui est logique. Alors c'est parti, les individus sont, on est toujours à l'été 2014, et vous voyez que les points sur l'écran enfin, commencent à se disperser. Là, je ne sais pas si on le voit bien, mais donc il y a le mâle 79 qui a commencé à se dégager de la main et qui commence à prospecter. La femelle 80 qui est vraiment une femelle un petit peu particulière puisqu'elle a couvert beaucoup de distance. Et en fait, elle s'est sortie de la main, de la zone du lâcher du cirque de Kagatei. En fait, elle a bougé pendant quelques temps et là, elle est en phase de stabilisation et nous sommes le 10 août 2014. On relance l'animation, donc là elle est stabilisée, et là elle va bientôt repartir. Donc la femelle est partie en bas à droite, et en fait elle se dirige vers le camp Cardos, c'est-à-dire les Pyrénées-Orientales. Et puis un autre mâle s'est mis à prospecter, vous le voyez à gauche, c'est le mâle M79. Donc là on a toujours un amas, de nouveau un mâle qui se met à prospecter, M69. Et là ce qui est intéressant, c'est qu'on a de nouveau, on se rapproche du rut, et on a de nouveau une phase d'ératisme, mais en fait, ce ne sont plus des individus isolés, mais ce sont en fait des paires d'individus, je ne me permettrai pas de dire que ce sont des couples, mais des paires d'individus qui se déplacent en simultané, et on peut supposer que lors du rut, il y a dû y avoir donc accouplement de ces individus. Là, voilà, on arrive au niveau du rut, pré-rut-rut, et là, de nouveau, on a une phase de stabilisation. Voilà, ça bouge moins. Là, c'est intéressant, on est rentré dans l'hiver, les points sont devenus blancs, et il y avait une paire d'animaux, et le mâle de cette paire, c'est celle qui est à gauche, le mâle de cette paire a disparu, et la femelle est restée là, et en fait, elle n'a pas essayé, et pourtant elle est seule, elle n'a pas essayé de rejoindre les autres. Elle reste à l'écart. Alors évidemment, ce que l'on remarque, on est en hiver, les animaux bougent très peu, printemps, et là, on va avoir de nouveau une accélération, enfin un élargissement des déplacements. Ça bouge un petit peu plus, après 5 mois d'une certaine stabilité. Et puis, on rentre dans l'été, et ça va beaucoup plus loin. Enfin, toujours en restant sur quand même le secteur de Kagatei et sud de Kagatei. Je vais finir par c'est toujours la même animation, mais là, on a collecté l'information du mâle 69. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, mais ça n'est pas un cas isolé, c'est qu'en fait, ce sont des individus qui sont capables de parcourir. On pensait que c'était les mâles hein, qui se déplaçaient le plus. Et là, c'est intéressant, puisqu'en fait, l'individu qui a fait les plus grands déplacements, c'est une femelle, la femelle 80. Mais ici, c'est intéressant, c'est le mâle 69, donc. Et en fait, ces animaux sont capables de couvrir de grandes distances, parce qu'en fait, ils utilisent des lignes de crête. Et effectivement, là, c'est visible. J'ai représenté les lignes de crête par ces petites ellipses bien aplaties, qui sont un petit peu plus claires. Donc ça, ce sont les axes de crête. Vous avez les localisations, hein, en fait ça correspond un petit peu à la crête frontière. Donc il est en haut à droite, et là il descend, et on voit tout à fait clairement qu'il reste à proximité des lignes de crête, et se déplace uniquement en restant sur ces lignes de crête. Il peut rester se stabiliser dans les zones particulières, mais s'il se déplace, en fait il va rester sur les lignes de crête, bon, sauf la dernière localisation, où là peut-être que c'était un début de dispersion, enfin de prospection.
Donc bonjour, je suis à l'INRA dans le même laboratoire que Georges et moi je suis généticien des populations, donc je vais vous parler de génétique et donc je m'intéresse à la diversité génétique du bouquetin de la population restaurée. Donc je vais commencer par vous donner quelques informations sur le contexte. Donc la population qui a été restaurée au niveau du Stou, du parc ariégeois, il y a à peu près 40 individus. La même chose pour le parc des Pyrénées, une quarantaine d'individus. Bon, ça, c'était en mai. Depuis, il y a encore une dizaine d'individus qui a été restauré en plus. Il faut savoir que donc on a prélevé un peu aléatoirement une quarantaine d'individus, une population qui était beaucoup plus grosse. Et donc, on a échantillonné aléatoirement des individus. On a échantillonné aléatoirement la diversité génétique de cette population d'origine. Et donc, ce processus de restauration amène à ce qu'on appelle un effet fondateur. Donc, on va avoir en fait une partie de la diversité génétique de la population d'origine qui va être restaurée. Et donc, pendant un certain temps, pendant un certain nombre de générations, on va avoir un nombre limité d'individus qui vont se reproduire. Et donc, on va avoir derrière un appauvrissement de la diversité génétique et aussi des risques de consanguinité. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement, c'est cette occasion unique, ce que disait Georges, de pouvoir voir un petit peu comment cette diversité génétique va évoluer dans les prochaines générations qui suivent la fondation de la population et aussi dans les premières générations de croissance. Donc on a une population d'origine avec une diversité génétique qui est relativement importante puisque l'effectif est relativement important. On va avoir une espèce de goulot d'étranglement génétique et donc on va avoir en fait échantillonné aléatoirement qu'une partie de la diversité génétique. Et lorsque la population est à taille limitée, la principale force évolutive qui agit, c'est ce qu'on appelle la dérive génétique, c'est-à-dire que les gènes qu'on va avoir à la génération suivante, c'est qu'un échantillon aléatoire des gènes de la génération précédente. Il n'y a pas de sélection naturelle ou très peu qui s'exerce. C'est que quand la population va avoir une taille de population conséquente qu'on va avoir en fait plus de sélection naturelle que de dérive génétique. Et donc le risque ici, c'est qu'on va en fait avoir des gènes, des variants génétiques qui vont se fixer dans la population qui ne sont pas forcément des variants génétiques favorables. Ça peut être des variants délétères. Et donc on a tout intérêt que la population, en fait, finalement, elle arrive avec un stock de génétique important et ensuite qu'elle puisse rapidement avoir une taille importante pour pouvoir avoir la sélection naturelle. Voilà. Et ça, c'est important parce que finalement, cette diversité génétique, c'est un peu le combustible de l'évolution et ça va déterminer sa capacité à s'adapter à son nouvel environnement, à l'arrivée d'un nouveau prédateur, à une maladie. Et donc finalement, c'est son potentiel évolutif. Pour mesurer finalement l'intensité de la dérive génétique, on calcule ce qu'on appelle une taille efficace d'une population. Et cette taille efficace, en fait, ça va correspondre au nombre d'individus qui sont géniteurs, qui vont effectivement participer à la reproduction et qui vont transmettre leurs gènes à la génération suivante. Et souvent, cette taille efficace, elle n'est pas du tout égale à l'effectif nombre d'individus qui sont présents dans la population, puisqu'il n'y a qu'une partie des individus qui vont transmettre leurs gènes. Et donc, du coup, ça va, en fait, cette taille efficace, elle permet d'avoir une information sur la vitesse à laquelle la diversité génétique peut être perdue par dérive génétique en l'absence de migration. Donc il existe encore une formule savante qui permet de relier en fait l'érosion de la diversité génétique. Le petit HT que vous avez ici, c'est l'hétérozygosie. Ça correspond en fait, lorsque vous avez recevé un gène de votre père, un allèle de votre père, un allèle de votre mère, si jamais ils sont différents, vous êtes hétérozygote. Et on regarde ça sur l'ensemble du génome. Et donc plus vous avez une valeur proche d'une hétérozygosie importante, ça veut dire que la plupart de vos gènes sont différents du père et de la mère. Si vous avez une valeur faible, ça veut dire que vous avez tendance à recevoir la même chose de votre père et de votre mère. Et ça, c'est pas très bon pour vous. Et donc finalement, on regarde à l'échelle de la population, on sait que si on laisse finalement la population avec une taille efficace très faible, eh ben, très rapidement, on va perdre l'essentiel de notre diversité génétique. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas très bon pour la viabilité de la population. Un autre truc qui est intéressant et qu'il faut absolument regarder lorsqu'on a une population de taille limitée, c'est le niveau de consanguinité de la population. Et là, je vous ai mis un petit exemple. Vous avez des individus au départ qui vont se reproduire, qui sont non apparentés, qui ont des variants génétiques différents. Et parce que la taille de population est très faible, à la génération suivante, vous allez avoir une reproduction entre un mâle et une femelle qui est en fait sa sœur. Et le risque, bon, vous connaissez tout ça, c'est que finalement, un des descendants de ses frères sœurs se retrouve avec une proportion importante dans son génome qui est identique par descendance. C'est-à-dire que finalement, ces deux chromosomes, ces gènes sont identiques et viennent d'un seul et même, de leur grand-père en fait, ils ont un grand-père en commun en fait. Et donc ça, le problème, c'est que finalement, on sait très bien, ça a été montré chez un grand nombre d'espèces, que finalement, un individu qui a un fort niveau de consanguinité, eh ben, ça va impacter ses performances individuelles. La survie est beaucoup plus mauvaise lorsqu'on a des forts niveaux de consanguinité et de la même façon, la reproduction aussi est beaucoup plus mauvaise. Il y a une étude aussi qui a été une étude récente qui est sortie cette année sur le bouquetin alpin où ils ont montré que le niveau d'hétérozygosie individuelle, qui est une espèce de proxy du niveau de consanguinité, eh ben on peut le relier à la masse corporelle des mâles et qu'on peut aussi le relier indirectement au parasitisme. C'est-à-dire que les individus qui ont un fort niveau de consanguinité vont être plus parasités. Donc le parasitisme, on sait que c'est aussi un proxy de la repro, de la fitness. Et aussi, indirectement, ça va impacter la taille des cornes. C'est-à-dire que finalement, les individus qui sont assez mauvais génétiquement, ils vont être plus parasités, ils vont être moins gros et aussi ils vont avoir des cornes moins grandes. Donc voilà, donc il y a vraiment un lien entre consanguinité et finalement les performances de l'individu. Donc ce qu'on a fait ici, en fait, on a eu les données il y a un ou deux mois maintenant. Grâce aux sangs qui ont été collectés lors de la capture, on a pu faire de la génétique, on a pu extraire l'ADN total des individus et on a travaillé avec une plateforme génomique de façon à génotyper un certain nombre de marqueurs qui vont nous informer sur la diversité génétique, mais également sur le niveau d'apparentement entre les individus. Alors ces marqueurs, c'est des marqueurs qu'on utilise très classiquement en génétique, qui sont des marqueurs qu'on appelle microsatellites. C'est des marqueurs qui sont très variables. Chaque individu a une combinaison différente d'allèles, et chaque individu a une empreinte génétique finalement, et des individus apparentés vont avoir des combinaisons d'allèles assez proches entre eux. Donc c'est très pratique. Et on va aussi s'intéresser aussi à, bon là c'est un petit peu barbare, mais à un marqueur qui est très intéressant puisque c'est un marqueur qui est impliqué dans la réponse immunitaire et qui est très utilisé comme justement marqueur de variabilité adaptative pour savoir si la population a dans son bagage une diversité adaptative importante. Donc on va calculer un certain nombre d'indices de diversité génétique dans cette population, estimer la taille efficace, évaluer le niveau moyen de consanguinité de la population et également les coefficients d'individus individuels. Donc pour les 40 individus qui ont été relâchés, est-ce qu'il y en a des individus qui sont plus mauvais que d'autres au niveau génétique, et également mesurer des coefficients d'apparentement entre les individus. Alors bien sûr, on est au temps zéro, là, il n'y a même pas vraiment eu de fondation génétique. Les individus qui sont dans la population, finalement, c'est un échantillon de la population d'origine, plus qu'il n'y a pas encore vraiment de reproduction, donc certains nombres de ces indices sont le reflet, en fait, de l'échantillon qui a été fait dans la population d'origine. Donc ça, c'est des résultats assez préliminaires. Donc ce qu'on s'aperçoit ici, on a la population pyrénéenne totale, la population d'Hustou et de Cotteret. Et ce qu'on voit, c'est que, alors, en termes de nombre d'allèles, on a finalement un peu moins de 3 variants génétiques par marqueur en moyenne. Ce qui est, bon, vous n'avez pas trop de points de repère, moi j'en ai. C'est très très faible par rapport à ce que je connais sur d'autres espèces de mammifères. Sur le chevreuil, sur le cerf, on est assez facilement à 7-8 variants en moyenne, voire une dizaine de variants. Donc, de façon générale, le bouquetin est très faible, a une diversité génétique très faible. Mais on se remarque que c'est quelque chose qui est assez général chez le bouquetin. Dans les populations alpines, c'est un peu le cas aussi. Même la population de Grande Paradiso, qui est la population emblématique de bouquetins dans le parc en Italie, la diversité génétique est assez faible comparativement à ce qu'on trouve même chez les chèvres domestiques, hein, qui sont très, très apparentées. Donc une diversité génétique qui est très faible, mais bon, c'est quelque chose qui est assez général chez le bouquetin. Lorsqu'on regarde un autre indice de diversité génétique, l'hétérozygosie, donc ce fameux indice de diversité basé sur la différence d'allèles dans les individus, là encore, en termes de niveau d'hétérozygosie, en vert, c'est les populations des Alpes. En orange, vous avez la population de Grande Paradiso. C'est pas quelque chose de, c'est très faible, mais finalement, c'est ce qu'on retrouve assez généralement chez le bouquetin. Bon, c'est normal, parce que la plupart des populations de bouquetins, eux-mêmes, ont eu des histoires démographiques très compliquées. Elles ont été réintroduites, restaurées après des grosses. Certaines ont disparu et ont été restaurées. Donc finalement, c'est très rare d'avoir des populations qui sont très anciennes. Pour ce qui est de la taille efficace, alors là, il y a deux façons de calculer une taille efficace. On peut la calculer de façon assez directe avec tout simplement en regardant le nombre qu'on a d'individus mâles et femelles dans la population. Et avec ça, on peut faire un premier estimateur du nombre efficace de reproducteurs. Le truc, c'est ce qui est intéressant et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le bouquetin, c'est une espèce où on observe une importante variance de succès reproducteur entre les individus. Il n'y a que quelques mâles qui vont contribuer énormément à la reproduction et d'autres mâles qui contribuent que très peu. Et donc, par exemple, si on regarde ici, on a en fait... alors il y a des études qui ont montré finalement que la repro dépendait beaucoup de l'âge, du statut social de dominance. Il y a très peu de paternité pour les mâles avant 6 ans. Donc si on regarde par exemple actuellement, enfin en tout cas en mai 2015, il n'y avait que 4 mâles qui avaient plus de 6 ans. Donc si on applique tout simplement la formule, on se retrouve avec une taille efficace qui est très 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 faible. Sachant qu'il faut, voilà, si vous regardez maintenant l'érosion de la diversité génétique qui peut découler de cette taille efficace, on s'aperçoit que si vraiment c'est le cas, on s'attend à perdre énormément de diversité génétique dans les prochaines générations. Bon, ça c'est un peu négatif tout ça, mais bon, voilà, je vais revenir sur des conclusions un peu plus positives. Bon, lorsqu'on regarde maintenant la taille efficace avec des estimateurs génétiques, cette fois-ci, en utilisant l'information génétique plus que l'information démographique, là on s'aperçoit qu'on a une taille efficace qui est autour de 40 individus, avec des intervalles de confiance qui sont assez intéressants. Donc là, si on applique la formule que je vous ai montrée tout à l'heure, une diminution de 1,5% par génération, ce qui est plutôt élevé. Ce qui est préconisé souvent, c'est d'avoir une taille efficace autour de 100 individus et pour avoir un équilibre et éviter la perte de diversité génétique autour de 500 individus. À titre de comparaison, en moyenne, pour les populations alpines, on a à peu près 100 individus. Sachant que les populations alpines, les estimations ont été faites un grand nombre de générations après la restauration, puisqu'on n'a pas accès à l'information lors de la restauration. Donc il y a déjà eu la fondation de la population, il y a déjà eu la phase de croissance, et donc finalement, la grande partie de la diversité génétique a déjà été perdue, et malgré ça, on a quand même des tailles efficaces qui sont autour de 100, et là, on part avec pas grand-chose, en fait. C'est un petit peu ce qui est embêtant, donc il faut espérer peut-être qu'on puisse récupérer d'autres individus par la suite qui puissent augmenter cette taille efficace, parce que c'est assez alarmant. Pour Grande Paradiso, par exemple, vous avez des tailles efficaces énormes, puisque effectivement, c'est des populations qui sont très anciennes, où l'histoire démographique n'est pas aussi complexe que celle-ci, et là, on peut considérer qu'on est à une sorte d'équilibre entre la dérive génétique qui est très faible et l'apparition de nouvelles mutations dans la population, donc ça s'équilibre, et donc là, c'est le cas idéal. Mais vous avez des populations suisses, où les tailles de population sont très faibles, vous avez aussi des tailles efficaces qui sont aussi très très faibles, et donc là, on sait que ces populations, ils ont une viabilité qui est menacée à court terme. Pour ce qui est du niveau de consanguinité de la population, on a un niveau de consanguinité moyen qui est raisonnable, qui est significatif, mais qui est assez proche de zéro. Voilà, très faible. Ça, c'est la moyenne. Globalement, cet indice de consanguinité entre 0 et 1. Plus on s'approche de 1, plus les individus sont consanguins entre eux. Après, on s'aperçoit là qu'il y a quand même des individus qui sont super consanguins. Alors, ça veut dire peut-être que finalement, ils ont été le fruit de la reproduction entre un frère et une sœur, ou entre cousins ou autres. Donc il y a des individus qui ne sont pas super. Et donc, ça serait intéressant de regarder un petit peu ce que vont devenir ces individus. Est-ce qu'effectivement, le fait qu'ils soient une mauvaise valeur génétique, est-ce que ça va impacter leur survie, leur reproduction? Mais bon, il y a quand même beaucoup d'individus qui ont des faibles niveaux de consanguinité. Donc ça, c'est plutôt positif. Le truc, c'est que vu qu'on a une population avec un faible effectif, probablement dans les prochaines générations, ils vont se reproduire entre eux. Et donc, ça va augmenter les niveaux de consanguinité dans les prochaines générations. Donc ça, c'est pas extraordinaire. Je vous ai mis aussi des informations sur l'apparentement entre les individus. Ça, c'est intéressant. On peut calculer en fait assez facilement avec les données génétiques des indices d'apparentement en comparant les génotypes des individus. Et là, on s'aperçoit qu'en moyenne, on a un apparentement qui est de l'ordre de 10%. Et donc, c'est à peu près ce qu'on a lorsqu'on fait reproduire des demi-frères entre eux. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, un indice d'apparentement de 0,25, c'est entre un frère et une sœur. Un apparentement de 0,5, c'est entre un fils et une mère, il faut espérer que ça n'arrive pas, ou entre, par exemple, des... ouais, c'est ça, 0,5, c'est entre les parents et ses descendants, ou entre plein frères, 0,25 entre demi-frères, et donc 0,10, c'est si jamais deux demi-frères se reproduisent. Ça donne des individus qui sont en fait qui ont très peu de diversité génétique, qui ont les mêmes copies, qui sont de la même famille finalement. Donc globalement, ça va probablement avoir un impact sur leur capacité à affronter le milieu, sur leur survie et aussi sur leur capacité à se reproduire. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure, ces individus qui sont très consanguins. Donc ils vont avoir des problèmes. Voilà, là vous avez ici quelques exemples. En fait, on a des coefficients d'apparentement qui sont significatifs pour 5% des pairs, avec là des individus qui ont des paires d'individus, parce que là on parle en termes de paires d'individus, qui ont 70% d'apparentement. Ça veut dire que les individus qui sont, vous voyez là, vous regardez par exemple la première ligne, ces individus qui sont probablement soit des pleins frères, soit des demi-frères, plus vraisemblablement des demi-frères dans le sens où il y a très peu de jumeaux chez les bouquetins. Donc ces individus, il faut espérer qu'ils ne se reproduisent pas entre eux. Mais bon, normalement, la nature est bien faite. Hein. Si jamais il y a assez de partenaires disponibles, ils ne vont pas se reproduire entre eux. Mais si le problème, c'est que c'est une population qui est nouvelle, et s'ils se retrouvent à côté et qu'il n'y a pas le choix, ça peut amener des reproductions. Et donc les descendants de ces individus, c'est des individus qui vont être peu viables finalement. Voilà, entre frères, c'est pas terrible. Voilà, bon, les perspectives de ce projet. Donc, on espère pouvoir récupérer davantage d'échantillons pour les descendants de cette population, parce que c'est ça qui va nous permettre finalement de faire le suivi via des échantillages de fesses. On peut faire de la génétique avec des crottes finalement. On espère pouvoir aussi avoir, je sais qu'ils font ça dans certaines populations alpines, faire des biopsies avec des pistolets à seringue pour récupérer des échantillons de tissu ou de sang pour pouvoir faire de la génétique. Et donc, ça permettra finalement pour les fans de savoir identifier leur père et leur mère, faire des tests de paternité et donc reconstruire une espèce de généalogie, de pédigré de la population, faire un suivi individuel du succès reproducteur des individus, voir dans les générations suivantes quel est l'individu qui a beaucoup contribué génétiquement, qui s'est bien reproduit ou ceux qui ont malheureusement pas réussi à se reproduire beaucoup, faire un suivi génération après génération donc de la diversité génétique, est-ce qu'on est dans les scénarios prédits ou est-ce que quelle va être l'évolution de la taille efficace, du niveau de consanguinité dans la population, évaluer le nombre de fondateurs génétiques, ça c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'il faut savoir qu'en moyenne, sur les populations suisses, on estime qu'il y a à peu près, il y a que 50% des individus relâchés qui ont finalement filé leurs gènes aux générations suivantes. Donc voilà, c'est pas énormément quoi. Et donc ça je vais revenir un peu avant, mais pour mettre en relation, avant de parler des histoires d'introgression de chèvres bouquetins, mettre ça en relation avec ce que disait aussi Georges, Ce qui est intéressant lorsqu'on a le pédigré, c'est qu'on peut regarder comment ce pédigré, cette généalogie, elle reliait ça aux informations spatiales. Donc regarder des apparentements, comment ils s'organisent dans l'espace, par rapport aussi à tout ce qui est information sociale, les groupes, comment ils se forment par rapport aux apparentements. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant par rapport à la connaissance de ces populations. Ça, c'est un petit peu en marge de l'étude, mais ce qui est intéressant aussi, ça serait de voir si on a ce qu'on appelle de l'introgression chef bouquetin. C'est des animaux qui peuvent se reproduire et donner la descendance viable. Et donc, finalement, notre but, c'est de préserver l'intégrité génétique du bouquetin. Donc, on veut éviter que des gènes de la chèvre viennent envahir le génome du bouquetin. Pour l'instant, d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas beaucoup de chèvres dans les zones où sont présents les bouquetins. Mais on sait que, par exemple, dans les Alpes, il faut imaginer, alors quelquefois, ça a des conséquences bénéfiques. Il faut voir que dans les Alpes, les populations sont très pauvres génétiquement, par exemple. Et donc, tout le système génétique immunitaire, en fait, il a été acquis grâce aux chèvres. C'est les chèvres qui ont filé leur gène de résistance à l'immunité et parce que les bouquetins n'avaient pas. Et donc, finalement, la pollution a été bénéfique. Mais il faut imaginer que pour l'adaptation du bouquetin, si les chèvres filent tout leur gène, ça ne va pas forcément être bon pour la suite. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va devoir suivre dans le temps. Et aussi, quelque chose d'un petit peu marrant, c'est que grâce aux crottes, en fait, on peut faire de la génétique et on peut reconstituer les régimes alimentaires, donc de savoir ce que les individus ont mangé, en étudiant l'ADN des plantes qui sont présentes dans les crottes, en utilisant une approche qu'on appelle le métabarcoding. Donc c'est super intéressant, donc on va pouvoir savoir. Ces bouquetins qui viennent de la région de Madrid, qui découvrent un nouvel environnement, qu'est-ce qu'ils vont manger, etc. Donc ça, c'est des données qu'on va avoir assez rapidement.